Vous rappelez, j'espère, ce conseil que Dallas Willard, le penseur et professeur chrétien, nous avait donné la semaine passée. Tu dois impitoyablement éliminer toute hâte de ta vie. Nous avions vu que notre rapport au temps et la façon dont nous l'appréhendions pouvaient dénoter une maladie dont nous n'étions peut-être pas conscients. La plupart du temps, nous n'en sommes pas conscients. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand on est malade, on peut se soigner. Si, ça prend parfois du temps, mais on peut se soigner. Donc reste à savoir si nous souffrons de cette manie de courir, par exemple, dans tous les sens, à laquelle nous pousse notre société de consommation intensive et de zapping intégral. Alors comme promis la semaine passée, on va essayer de passer du temps sur les symptômes. Si nous souffrons de la maladie de l'homme pressé, nous sommes en fait hantés par le sentiment que notre journée ne possède pas assez d'heures pour pouvoir rentrer toutes les heures et toutes les choses que nous pensons devoir faire. Dans ce cas, l'un des symptômes de notre état est que nous mangeons vite, nous lisons vite, nous parlons vite, et quand quelqu'un nous parle, justement, nous n'avons qu'une envie, c'est qu'il accélère. Moi, ça m'arrive de dire aux gens, à certaines personnes qui n'ont pas l'esprit de synthèse, justement, on leur dit, tu peux pas me faire la version courte. Mais pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir de temps à perdre, alors que je devrais être à l'écoute de cette personne. Dans le cas où nous souffrons de cette maladie, nous allons avoir une tendance systématique à accélérer, donc à speeder nos activités quotidiennes, même les plus anecdotiques. On va prendre quelques exemples. Nous allons, par exemple, nous surprendre à râler sur tout ce qui bouge, particulièrement quand nous sommes en voiture, derrière quelqu'un qui n'avance pas. Mais là où ça devient le plus comique, c'est quand nous sommes dans une file, dans une grande surface. Alors imaginez-vous dans une file, dans une grande surface. Nous comptons le nombre de personnes dans chaque file, nous tentons d'apprécier les quantités d'articles dans les caddies des uns des autres, afin de définir la file qui avancera probablement la plus vite, afin de perdre le moins de temps possible. Cerise sur le gâteau, nous allons même jusqu'à continuer de tenir à l'œil la personne qui était devant nous dans l'autre file que nous venons de quitter, afin de vérifier si elle sort avant nous du magasin. Alors si elle sort après nous, on se sent bien. Si elle sort avant nous, on est beaucoup moins bien. Et on râle, je vais être gentil, on râle un petit peu, un tout petit peu. Alors si ça vous ressemble de près ou de loin, j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous souffrez de la maladie de l'homme pressé ou de la femme. Vous savez bien que c'est vrai que quand je dis homme, c'est souvent générique. On va pas commencer à rentrer dans l'inclusivité qui est très à la mode. Je dis bonjour tout le monde, les femmes sont dedans aussi. Voilà, vous savez que je suis un féministe convaincu. Alors non seulement le monde autour de nous ressemble à une course folle, mais certains d'entre nous ont une fâcheuse tendance à accélérer encore un petit peu le mouvement. En plus du besoin maladif de se dépêcher, nous nous retrouvons à faire et à penser à plus qu'une chose en même temps. Alors aujourd'hui, tout le monde trouve ça génial. En fait, c'est une catastrophe. S'il y a un problème aujourd'hui, c'est l'incapacité chronique de plus en plus de gens de se concentrer sur quelque chose en particulier. Alors, si vous êtes de ces personnes qui faites plein de trucs en même temps ou qui pensez plein de choses en même temps, vous faites partie de ce que les psychologues appellent des êtres polyphasiques, à plusieurs phases. Vous connaissez bien ce terme un peu technique, on appelle ça être multitâche. Ça vous dit quelque chose, le multitâche ? Vous connaissez d'ailleurs tous cette légende urbaine selon laquelle les femmes seraient multitâches et les hommes monotâches. Je tiens à préciser que c'est une légende. Les hommes se sont tout simplement habitués pendant des millénaires à être de gros glandeurs et les femmes n'ont pas eu d'autre choix que d'assumer tout le reste. Mesdames, c'est là que vous applaudissez normalement, mais bon, soit. Aujourd'hui, il me semble simplement que quand les deux travaillent, et c'est le cas de la plupart d'entre nous, se partager des tâches quotidiennes, et on ne peut plus, normal. Mais le problème reste néanmoins bien réel. Certaines personnes souffrent d'activités polyphasiques. Là encore, la voiture peut se révéler un endroit particulièrement parlant pour repérer ce genre de phénomène. En effet, les personnes souffrant de la maladie de l'homme pressé mangent, boivent, règlent la radio, se maquillent, se rasent, se maquillent, se rasent, parlent au téléphone, font des gestes et accessoirement quand même conduisent leur voiture, tout ça en même temps. Messieurs, je vous interdis de dire que c'est surtout un syndrome féminin. À la maison, ils essayeront de regarder la télévision, de manger, et de parler, de tenir une conversation en même temps. En fait, la vie de ces personnes manque simplement de simplicité. Elles ont parfois un agenda, mais ne s'en servent quasi jamais. Elles achètent parfois des livres, mais ne les lisent pas. Elles achètent parfois des gadgets ménagers en tout genre, mais ne s'en servent pas, ou pas très longtemps, ce qui génère en elles souvent de la culpabilité. De plus, ces personnes sont incapables de se débarrasser de leurs affaires usagées ou anciennes. Tenter de les aider à faire le tri dans leurs affaires, c'est une catastrophe. Ça, il faut jeter. T'as pris 3 tailles depuis 20 ans. Non, mais on ne sait jamais si je maigris. Et ce truc va s'empiler. Le drame dans tout ça, c'est qu'à force de ne pas savoir dire non à certaines choses, celles-ci prennent la place d'autres choses bien plus importantes. Et c'est ça le problème de fond qui nous intéresse. Il est sans doute temps à présent d'envisager les conséquences de notre mauvaise utilisation du temps. Alors, le théologien Richard Foster évoque dans un de ses livres l'une de ces conséquences. Et voilà ce qu'il dit. La superficialité est la malédiction de notre temps. Alors, c'est une malédiction car la profondeur relationnelle, simplement, entre les êtres, s'acquiert toujours lentement. La profondeur a besoin de temps. Ce qui est important demande toujours du temps. Donc, quand nous courons après le temps au lieu de le vivre, lorsque nous zappons d'un instant à l'autre, nous sommes tout simplement des êtres superficiels. Petite parenthèse, bon, pour les plus jeunes, même si on n'en a pas beaucoup ce matin, enfin, certains d'entre nous sont parents, il est peut-être encore possible de rattraper des trucs. Il y a une psychologue américaine, bon, il faudra encore faire des études plus poussées, mais elle a écrit un livre qui s'appelle High Generation. Donc, les High Generation, ce sont les enfants qui sont nés à partir de 95. Autrement dit, qui avaient 10 ans ou moins en 2005 quand l'iPhone est arrivé sur le marché. Et cette psychologue a écrit un livre qui n'est disponible qu'en anglais pour l'instant, où elle explique que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour plusieurs raisons. Déjà, justement, parce que ces gosses sont atteints de cette maladie du temps. C'est-à-dire qu'ils passent tout leur temps sur leur iPhone et ça déstructure, elle explique assez, parce qu'elle est neurologue aussi, ça déstructure les synapses de connexion au niveau du cerveau, ça casse les relations humaines, la capacité de rentrer en relation avec les autres. J'ai cité ces couples qui sont au restaurant et qui passent leur soirée à taper sur des... Et la communication, elle est où là-dedans? Puis, il y a aussi ce fait, et c'était assez terrible, il y a 3-4 semaines de ça, le numéro 2 de Facebook est passé sur la télévision américaine et il a demandé pardon. Il a demandé pardon parce que, je le cite de mémoire, il dit « Quand nous avons, Zuckerberg et lui, quand nous avons créé Facebook à l'époque, nous savions que ça allait détruire la société. Nous savions que ça allait détruire les relations humaines. Et on l'a fait quand même. » Le gars était effondré. En quoi? En 15 ans? 20 ans de temps? Donc, quand on fonctionne dans le iPhone, les gosses disent « Ouais, mais c'est normal, fous-moi la paix avec ça. Ma génération fonctionne comme ça. » Le seul problème, c'est que c'est cette génération-là qui va, entre guillemets, diriger le monde. C'est les futurs professeurs, les futurs hommes et femmes politiques, les futurs, pour certains entre eux, directeurs, cadres supérieurs dans les entreprises, les futurs psychologues, on peut toujours rêver, les futurs, rêvons encore plus, pasteurs et pasteureux, avec eux au bout. Voilà, donc ce n'est pas anecdotique. Même si ce livre annonce quand même des choses, ça manque d'observation clinique, mais bon, voilà. Je pense que ça commence à sortir, les bouquins commencent à sortir. Il faut toujours en moyenne 10 à 15 ans pour qu'on commence à écrire sur les problématiques de société. Donc je rappelle que tout ce que nous pouvons donner, offrir à l'autre, c'est notre temps. Vous pouvez offrir des fleurs aussi, mais le temps c'est quand même bien. Donc de nos jours, nous avons échangé, mais on ne s'en rend pas compte, la sagesse contre l'information. Nous avons bradé la profondeur au profit de la connaissance. La lecture des grands livres pour Wikipédia, pour les résumés sur Wikipédia, des grands livres. Nous sommes à l'ère de la micro ou de la maturité micro-onde. On essaye de grandir dans un temps restreint. Vous avez remarqué ça, quand on regarde les plateaux télévisés dans certaines émissions comme chez Ruquier, etc. Nous sommes à l'ère donc de nos contemporains qui sont un avis sur tout. Moi, ça me frappe. Ils ont un avis sur tout. On invite des philosophes qui écrivent des livres. Et puis, il y a des chroniqueurs qui sont simplement chroniqueurs, sont parfois un peu journalistes, et qui démontent le livre. Sur base de quoi? Sur base de quelles compétences? Nos contemporains en avisent surtout, mais ne maîtrisent systématiquement rien. En fait, ils ne savent rien. Nous vivons à l'époque de ce que moi j'appelle l'homo sapiens sapiens. C'est l'homme qui pense qui pense. Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils pensent, mais en fait, ils ne pensent plus, parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour ça. Comme le faisait remarquer un philosophe dernièrement, les gens aujourd'hui ont pris les humoristes comme référentiel et filtre au travers duquel ils comprennent le réel. Quand ils veulent un avis sur quelque chose, ils vont voir un humoriste. Alors, moi, j'ai rien contre les humoristes, hein, j'aime bien rire. Mais quand on commence à remplacer les sociologues, les psychologues, les philosophes, éventuellement les théologiens, par des humoristes, pour comprendre ce que nous vivons, je pense, mes amis, qu'on est mal. Mais ce n'est pas là encore le plus grave. Vous allez me dire, oh, chic, je suis content d'être venu. Hein. Ce n'est pas le plus grave. Avant de lire le verset, je resitue, hein, vous connaissez ce texte sans doute, hein, parce que je n'ai pas pris tous les versets, ça aurait été trop long. Jésus, il avait trois grands amis, pas seulement, mais en dehors de ses disciples les plus proches. C'était Marthe, Marie et leur frère Lazare. Donc, il passait souvent, quand il passait à l'est du Jourdain, ben, il ne manquait jamais une occasion de visiter ses amis. Et ce jour-là, il arrive avec ses disciples, et ben, bon, alors on pense toujours aux 12, mais il y en avait plus, hein, en moyenne, il y en avait quand même 70-80 qui suivaient. Ça fait du monde à accueillir, ça fait du monde, il faut les nourrir. Donc, Marthe, elle panique, elle fait la bouffe dans la cuisine, elle pète des câbles parce que sa sœur est là comme une glandeuse au pied de Jésus à ne rien faire. Et finalement, elle va même jusqu'à faire des reproches, vous connaissez l'histoire, à Jésus. Tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur ne vient pas m'aider? Et Jésus dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Paf! Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails de cette histoire, parce que je l'ai déjà fait il y a quelque temps de ça. Mais ce que j'aimerais quand même relever en rapport avec notre réflexion d'aujourd'hui, c'est que Marthe, dans cette histoire, contrairement aux apparences, parce qu'elle a fait beaucoup de choses, hein, elle a perdu son temps. Alors, bien sûr, c'est la bonne nouvelle pour elle, elle reverra encore Jésus dans l'avenir. Et il y aura d'autres occasions de l'entendre parler, de l'entendre enseigner, c'est vrai, hein, donc tout n'est pas perdu. Hein. Mais il n'empêche ce moment de pur bonheur, cet instant de grâce. Imaginez, avoir Jésus chez soi ne reviendra jamais. Ces quelques heures-là, ils ne reviendront pas. Elles ne reviendront pas. D'autres, je l'ai dit, se représenteront encore, mais ces heures-là, ce temps-là, il ne reviendra jamais. Donc le temps qui nous est donné de vivre maintenant ne se présente qu'une seule fois. Donc dans le cas de Marthe, Dieu était là, à ce moment-là, et Marthe est passée à côté. Quand je disais qu'on peut passer à côté des gens, ben Dieu c'est une personne, on peut passer à côté. D'ailleurs je pense que, sans trop m'avancer, et je parle pour moi en premier, c'est fou sur une journée de 24 heures comme je peux passer devant Dieu sans même le remarquer. Quoi. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle a raté exactement Marthe, en termes de qualité de temps? Elle a raté un bon enseignement? Ben, ça on peut. Je pense qu'on peut dire qu'elle est certainement ratée, elle a certainement raté un bon enseignement. Mais ce n'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est que Marthe a raté un moment d'amour pur, de pur amour. Un temps durant lequel elle aurait pu entendre Jésus et prendre conscience de tout l'amour qu'il avait en lui, tout l'amour qu'il avait pour elle. C'est donc pas étonnant que Jésus ait dit à Marthe, et là je paraphrase l'évangile, « Ta sœur Marie a eu raison de rester près de moi. Ce moment restera dans son cœur, à jamais. Elle ne l'oubliera jamais, ce moment-là. Le signe le plus sérieux d'un mauvais rapport au temps est une capacité à aimer diminuée. Et c'est ça qui est grave, me semble-t-il. Le temps, c'est de l'amour ou ce n'est rien. Mes amis, la hâte, le zapping permanent et l'amour sont fondamentalement, de par leur essence même, totalement incompatibles. C'est l'un ou c'est l'autre, mais on ne peut pas avoir les deux. Aimer, ça prend toujours du temps, et le temps, c'est ce que la grande majorité de nos contemporains n'ont plus. C'est ce que bon nombre d'entre nous n'ont plus. Je vous raconte une petite histoire vraie. Ça arrive, hein, quand même. Je ne les invente pas tout le temps, mes histoires. Parfois, je suis fainéant. Donc ça, c'est une histoire vraie. Donc on raconte l'histoire d'un homme d'affaires, assez corpulent, il était américain sans doute. Ça, c'est un jugement, c'est pas bien. Assis sur son siège de première classe devant un couple de personnes âgées. L'homme en question est très énervé, parce qu'il avait été derrière eux dans la file à l'enregistrement des bagages, il a été derrière eux à l'embarquement, et forcément, comme ce sont des personnes âgées, elles n'avançaient pas très vite. Et ça l'a énervé au plus haut point. Et maintenant, les deux mêmes petits vieux retardaient son plateau repas, parce qu'ils avaient besoin de prendre leur sac dans le box au-dessus de leur siège pour prendre leur pilule avant de manger. Et en prenant le sac, ils ont forcément laissé tomber le sac dans l'allée. Et là, l'homme d'affaires a pété un câble, il s'est levé, il a hurlé pour tout l'avion. « Mais quel est votre problème à vous deux ?» Mais hurlé, hein. Il s'est rassis dans son siège violemment en mettant la manette du dossier vers l'arrière. Et vu son poids, le siège a tapé le plateau repas des petits vieux qui est monté en l'air et leur air tombé dessus. Alors, je ne sais pas en quoi consistait le repas. Je peux imaginer. Enfin, ils ont été baptisés par le plateau repas. Le steward qui entend et qui voit tout ça se précipite sur les deux petits vieux et dit « Que pouvons-nous faire, à part vous nettoyer un petit peu, pour régler votre désagrément, etc. » Et le petit vieux dit « Mais vous savez, nous fêtons nos 50 ans de mariage, c'est la première fois qu'on prend l'avion. » Et du coup, le steward va leur chercher une bonne bouteille de vin rouge, qu'il décapsule. Et là, le petit vieux prend le verre de vin rouge, il se sert lui, sa femme, il se lève, il porte un toast à son amour, prend le reste de la bouteille et la verse sur la tête de l'homme d'affaires. Donc c'était le temps de l'amour, et notre homme pressé ne l'avait apparemment pas compris. Donc c'est dangereux de ne pas respecter les moments d'amour, c'est dangereux. Les gens stressés, mes amis, ne savent pas aimer. Ce sont des handicapés de la relation humaine. Lewis Grant, un auteur chrétien, pense que nous sommes atteints de ce qu'il appelle, j'aime bien cette expression, elle donne mieux en anglais, mais la fatigue du coucher du soleil. Ça fait un peu indien, Sioux, la fatigue du coucher du soleil. Lorsque nous rentrons du travail, ceux qui ont le plus besoin de notre amour, ceux envers lesquels nous nous sommes le plus engagés, sont ceux qui se retrouvent au final négligés et en manque d'amour. Notre conjoint, souvent, et les enfants, s'il y en a. Ça arrive lorsque nous sommes trop fatigués, trop vidés ou trop préoccupés pour aimer ceux à qui nous avons pourtant fait le plus de promesses. Et la fatigue du coucher du soleil s'est installée lorsque, quelques symptômes, vous vous retrouvez à courir sans aucune raison. Parce que parfois on court sans aucune raison. On n'a pas besoin de courir, mais on court quand même. Ou quand il y a une tension sous-jacente produisant des mots blessants et des disputes, donc il ne s'est rien passé spécialement dans la famille ou dans l'environnement, mais à un moment, on ne peut plus rien dire, on peut même, tiens, tu ne sais pas passer le sel sans qu'il y ait une réplique pas très sympa qui fuse. Quand vous accélérez certaines choses du quotidien en les faisant passer pour un jeu, par exemple, ok les enfants, voyons voir qui est le plus rapide pour prendre son bain. En fait, que l'objectif derrière, c'est simplement être quitte du bain des enfants. Alors que c'est un moment privilégié. Plus quand ils ont 18 ans, évitez. D'accord ? Ou quand vous ressentez une diminution de votre capacité à dire merci et à vous émerveiller. Rappelez, j'ai fait un message là-dessus. Notre incapacité à ne plus rien voir de ce qui est merveilleux dans l'environnement, parce que cet environnement, c'est Dieu qui l'a fait, c'est dramatique. Il n'y a plus rien qui nous émerveille. Ils sont blasés, quoi. Puis vous installez aussi parfois, si vous souffrez de ça, des techniques d'évitement de la fatigue dans l'alcool, la télévision ou la musique d'Ed Sheeran. Parce que Ed Sheeran, si vous écoutez ça, vous avez vraiment un gros problème, quoi. Un petit gars avec une grande bouche, un roux en plus, bedonnant avec sa guitare sèche devant un stade. Mais à quoi ça sert? À part que les rodis, les gens qui prennent la prise de son, ils ont fait leur boulot en 5 minutes. Ça peut être sympa. Mais Ed Sheeran, c'est pas raisonnable, quoi. Donc si quelqu'un d'entre eux écoute Ed Sheeran, il faut m'en parler, c'est important. Tu sais pas qui c'est bien Jean-Marie. Heureux homme. Donc c'est parce qu'elle tue l'amour que la hâte est le grand ennemi de la vie spirituelle. Parce que la vie spirituelle, mes amis, c'est apprendre à aimer. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul, entre autres. Il dit quoi, rappelez-vous? Vous voyez la croissance spirituelle, ça peut pas être évalué au niveau de la connaissance biblique, parce que des poissons rouges, quoi. Plus sérieusement, allez Paul, non, vous rappelez pas? L'amour est l'accomplissement de la loi. 603 commandements dans le Nouveau Testament, dans la Torah, la loi de Moïse. Et Paul dit, vous voulez obéir à tout ça? Vous n'avez qu'à aimer. Apprenez à aimer. Vous pouvez pas vous tromper. Donc, quelle est la jauge d'évaluation de la santé spirituelle d'un chrétien? C'est sa capacité à aimer. Est-ce qu'il grandit dans son amour pour Dieu et les autres? Et les autres, parce que dire que j'aime Dieu, ça, c'est pas très compliqué. Tout le monde fait ça. Enfin, non, pas peut-être tout le monde, mais tous les chrétiens. Seigneur, que je t'aime! Ouais. Oui, ben, c'est parce qu'on prononce un mot dans un endroit que ce mot existe dans la réalité. Hein. Dans toutes les églises, on parle de l'amour. Hein. Le seul problème, c'est qu'on voudrait bien en voir un atome quelque part, n'est-ce pas? Donc, je répète, c'est parce que la hâte, l'empressement tue l'amour, qu'elle est le grand ennemi de la vie spirituelle. Elle se cache derrière un grand nombre de colères et de frustrations liées à la vie moderne. La hâte nous empêche de recevoir l'amour de notre Père et forcément, c'est la conséquence de le donner aux enfants de notre Père. Et quand je dis aux enfants de notre Père, j'élargis même à ceux qui ne sont pas encore les enfants de notre Père. C'est pour cette raison que Jésus ne s'est jamais pressé. Il était très occupé, on l'a dit le dimanche passé, mais il ne s'est jamais pressé. Si nous voulons le suivre, nous devons donc, je répète, éliminer impitoyablement la hâte de nos vies, parce que par définition, nous ne pouvons pas aller plus vite que celui que nous suivons. Nous pouvons, avec l'aide de notre Seigneur, devenir des hommes et des femmes qui prennent le temps de ce qui est vraiment important. Des hommes et des femmes qui apprennent quoi ? Ah, ça, ça ne va pas plaire, mais bon, je ne vois pas d'autres termes. Hein. Qui apprennent la patience. Qui apprennent la patience. C'est un fruit de l'esprit, la patience, hein, je le répète. Hein. Mais encore une fois, nous ne pouvons pas apprendre ça en une nuit, tout seul. Le simple fait de dire « Oh, Seigneur, apprends-moi la patience ben, », le lendemain matin, vous ne serez pas plus patient pour ça. On va donc devoir, comme pour tout le reste, s'entraîner. Jean-Marie, s'entraîner. Arbeit, s'entraîner. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? Premièrement, nous allons devoir apprendre à ralentir. Même en voiture, c'est important, hein, à ralentir. Ça implique, ça va être très dur à entendre, mais je suis désolé, hein, on va être pratique. Hein. Ça implique que nous allons délibérément, je dis bien délibérément, volontairement, choisir de nous placer dans une position où nous allons devoir attendre. Donc, si je reprends mon exemple de la queue en magasin, vous allez devoir prendre la plus longue. Je le saurai si ce n'est pas le cas. J'ai mes espions. Alors, dans un premier temps, pour que ça soit un petit peu facile, pour vous, vous pouvez le prendre comme un jeu, quoi. Bon, allez, le grand fou m'a encore sorti un truc, je vais essayer, on verra bien. Alors, ça va, encore une fois, en une semaine, dans la plus longue file, ça ne va peut-être pas faire bouger grand-chose, mais à force, il y a un mécanisme qui va s'installer en vous. Donc, et si vous continuez dans votre file la plus longue à sentir encore du stress monter, parce que vous vous dites que vous avez plein de trucs à faire, que ce n'est vraiment pas un bon plan, et que vous commencez à râler pour ceux qui sortent du magasin avant vous, scoop, priez pour ces personnes, bénissez-les. Idem pour le petit vieux en bagnole devant vous qui est à 30 alors que la moyenne kilométrique est de 70 à l'heure. Ça arrive, ça. Hein, ne l'envoyez pas en enfer. Ne râlez pas, ne le traitez pas de soit. Bénissez-le. Non, mais vraiment, il faut le bénir. Faites ce que je devrais faire. Bénissez-le. Vous pouvez aussi essayer de faire le jeûne du klaxon. C'est important, ça. Hein. Le klaxon. Faire le jeûne. Je ne touche plus à mon klaxon, déjà. Et puis celui-là aussi de klaxon, en voiture. Décidez de ne plus rien dire. Un salut du silence quand vous prenez le volant. Rappelez-vous ce que Paul disait aux chrétiens de Rome. Bénissez et ne maudissez pas. Quand vous envoyez le gars devant vous qui vous dépasse sur l'autoroute en enfer, ça n'est pas vraiment la définition de la bénédiction. Et j'en sais quelque chose, j'ai fait ça pendant quand même un petit temps. Pendant une semaine, et ça, celle-là, elle est particulièrement pour moi, mangez lentement. Parce qu'on mange trop vite, hein. D'accord. Enfin, moi en tout cas. Forcez-vous à mâcher chaque bouchée au moins 15 fois avant de l'avaler. Oui, parce qu'il faut avaler quand même, hein. C'est important. Tentez, allez, ça c'est fou. Passez une journée sans votre montre. Laissez votre montre à la maison. Pas de montre. Aïe, aïe, aïe. Bon, il y en a certains qui n'en portent pas, hein. De toute façon, chez BM, mais ils sont plutôt rares. Alors, je pourrais continuer, mais je pense que vous avez compris l'idée. Vous devez vous placer dans des situations où vous serez obligé d'attendre. Et dans ces moments-là, dites à Dieu que vous lui faites confiance pour accomplir tout ce que vous avez à faire. Et dans tout ce que vous avez à faire, il y a peut-être plein de trucs que vous ne devriez pas faire. Mais ça, avec le temps, vous allez apprendre aussi à faire le tri entre ce qui est indispensable et ce qui ne l'est vraiment pas. Je ne sais pas si vous savez, mais on a fait des recherches très poussées sur le rendement en entreprise. On fait ça souvent. Hein. C'est un scoop, les chefs d'entreprise... Et les chefs de service, ils se rencontrent souvent, dans les grandes boîtes, c'est mon souvenir à moi quand j'y étais, et on discute de comment maximaliser le rendement du personnel. Mais il y a un truc que vous ne savez peut-être pas. Et moi, j'ai travaillé en production. par définition, les zones de production, c'est les zones où on produit. Les gens qui courent ne sont pas plus productifs. Moi, dès que j'envoie un courrier, je dis, arrête de courir, arrête. Un, c'est dangereux, deux, enfin, ça ne sert à rien. C'est même souvent une source de stress et d'erreur, courir. Il ne faut pas courir, ce n'est pas un bon signe de courir. L'important, en mettant en pratique ce que le Seigneur nous dit, c'est que nous verrons par nous-mêmes que nous pouvons devenir des personnes justement qui ne courent plus et assument malgré tout leurs responsabilités. Vous allez faire, vous savez ce que vous avez à faire. Hein? Mais autrement, à un autre rythme, et un rythme qui va vous permettre de focaliser à certains moments de journée sur ce qui est vraiment important, à savoir les gens. Travail, vous avez des collègues, hein? Non? Moi, j'en ai pas, des collègues. Enfin, si, j'en ai un. Exigeant comme patron. Hein. Et c'est eux qui sont importants. Donc plutôt que râler sur vos collègues parce qu'ils ne font pas les choses comme vous le feriez, ou parce qu'ils ne vont pas aussi vite que vous, essayez de vous intéresser à la personne. Je rappelle quand même que vous êtes un témoin du Christ, hein, 24 heures sur 24, hein, et que votre boulot, c'est au minimum 8 heures de votre vie tous les jours. Hein. Vous passez plus de temps avec vos collègues de travail qu'avec votre famille. Hein. Donc, c'est un temps aussi qu'il faut mettre à profit pour aller vers l'autre, pour recevoir de l'autre et pour surtout, en ce qui nous concerne, donner à l'autre. J'attaque maintenant le dernier point. Une pratique spirituelle traditionnelle, mais qui s'est extraordinairement perdue, et pourtant qui est en relation directe avec ce que nous disons aujourd'hui, avec notre rapport au temps, c'est la solitude et le silence. Ça, c'est deux termes qui font fuir tout le monde aujourd'hui. Alors quand je parle de solitude, je parle bien entendu de solitude choisie, volontairement, temporairement, pour une courte période, plus ou moins longue. Pas de la solitude subie, ça, deux choses différentes. Et la solitude et le silence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on lit l'Évangile, moi, un truc qui m'a toujours frappé très vite, c'est que Jésus, dès le début de son ministère, dès qu'il rentre dans son ministère, il installe des temps seuls. Au début, après son baptême, il se passe quoi? Enfin, ça c'est long, mais 40 jours dans le désert. Et hop, la dose, hein. Oupi, 40 jours. Dans le désert, mes amis, il n'y a rien. Vous et le silence. Et Dieu. Et on le voit pratiquer cette discipline de retrait temporaire tout au long de sa vie. Quand on lui annonce, rappelez-vous, la mort de Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il fait? Il plante tout le monde là, il se retire au désert. À mon avis, pour pleurer. Mais bon, ça c'est personnel, c'est ma lecture à moi. Lorsqu'il devra choisir ses disciples, qu'est-ce qu'il fait? Toute une nuit, il se retire dans le silence. Il y a plusieurs moments dans l'Évangile, la foule est toujours là, le travail est toujours là. Les gens en souffrance sont toujours là. Les pauvres, les malades, enfin tout ce que vous voulez. Son travail en fait est toujours là. Et à certains moments, il dit à ses disciples, renvoyez-les. Et il fait quoi? Il prend sa barque, il se tire de l'autre côté du lac. J'ai besoin de solitude et j'ai besoin de silence. Il a besoin de ça, alors qu'il est le Fils de Dieu et nous pas. Moi, j'ai un petit doute. Protestants, ils parlent tout le temps. La preuve, on a balancé le bébé avec l'eau du bain au XVIe siècle. Alors, tout le monde par la fenêtre, mais en attendant, c'est nous qui payons. Hein. À la fin de sa vie, avant son arrestation, avant sa mise à mort, il est où? Dans le jardin de Gethsémané, son endroit de prière préféré à Jérusalem. Il est avec ses disciples, mais il leur demande de s'éloigner et il est seul, dans le silence et la solitude. Donc c'est très intéressant de voir que sa vie terrestre commence par du silence et finit par du silence. Alors la question reste, pourquoi est-ce si important de se retirer? Eh bien, un vieux dicton dit que la solitude est la fournaise de la transformation. Autrement dit, la solitude nous change parce qu'elle a le temps que nous lui donnons pour ça. Puis il y a une autre chose qui est importante et qui est liée avec la solitude. La solitude, c'est le seul moment durant lequel nous pouvons acquérir de la liberté sur les forces de la société qui autrement, inlassablement, nous modèleraient. Il ne faut pas être naïf, mes amis. Hein. Soit-on passe du temps, on apprend à prendre du temps de qualité avec Dieu. Je viens dans deux minutes. Et on apprend à se retirer dans le silence, parce qu'on en a vraiment besoin. Au niveau thérapeutique et intérieur déjà. Je dis souvent, dans le silence, on entend ces bruits intérieurs, ces problèmes intérieurs. Soit on fait ça, soit on va être pénétré en permanence par ce que la société pense, par les valeurs de la société. Alors il y en a certaines qui sont super sympas. Hein. Moi, je ne dis pas que tout est acheté, pas du tout. Hein. Par contre, il y en a d'autres, seul moment durant lequel nous pouvons acquérir de la liberté sur les forces de la société qui autrement, inlassablement, nous modèlent. Rappelez-vous l'expérience de la grenouille. Vous plongez une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle en ressortira aussi vite. Vous la mettez, hop, elle ressort. Pourquoi ? Parce qu'il fait chaud, quoi. Vous plongez la même grenouille dans une casserole d'eau tiède et vous montez la température graduellement, elle mourra ébouillantée sans même s'en apercevoir. Eh bien, nous sommes des grenouilles. Nous ne sommes pas conscients des dangers et des idées véhiculées par notre société parce que nous en faisons partie, nous sommes dans l'eau tiède, quoi. Nous en faisons partie. Et ce n'est pas grave, hein, puisque nous sommes dans le monde. Mais Jésus dit, mais vous n'êtes pas du monde. Donc cette pratique de la solitude et du silence est donc indispensable, car les dangers auxquels nous sommes le plus vulnérables ne sont en général pas les plus évidents ou dramatiques. Ce n'est pas des trucs énormes qui vont vous arriver dans la façade, ce n'est pas ça le plus grave. Hein. Ce n'est pas ça le plus dangereux, même si ça peut vous arrêter temporairement, ce n'est pas ça. Parce que quand vous prenez un coup de boule, je vais le dire comme ça, vous l'avez légèrement remarqué qu'il y a eu un problème là. Non, les choses les plus dangereuses pour nous, ce sont au contraire ceux ou celles qui font partie intégrante de notre environnement et que nous finissons donc par ne plus même, nous ne remarquons plus ces événements, toutes ces choses autour de nous. On en fait partie et ça diffuse et c'est notre quotidien. Donc, pour nous, il n'y a plus de danger, plus de signaux qui clignotent. La vérité est nue et assez terrible, hein, et de plus en plus, me semble-t-il, en analyse, c'est que nous vivons dans un environnement spirituellement mortel. Notre société véhicule des idées, je l'ai dit, des valeurs, des pressions, des tentations au sujet du succès, de la sécurité, du confort et du bonheur aux antipodes, mais vraiment à l'opposé de ce que Dieu dit. Mais on part avec. La seule solution pour qu'on s'en prenne conscience, c'est prendre du temps pour entendre autre chose que les signaux que nous envoie la société, justement. C'est pas pour ça qu'il faut se couper du monde, hein. Parce que se retirer, c'est temporaire. Hein. Je ne suis pas en train de recruter des moines, hein, vous avez bien compris. Hein. Thomas Merton, lui c'est par contre un moine, le gars à gauche, un très grand intellectuel américain aussi au demeurant, souligne dans un de ses livres que les premiers pères de l'Église, donc des 3-4 premiers siècles de l'histoire de l'Église, plaçaient comme priorité de se retirer du monde fréquemment, et je cite, « car ils considéraient la société comme une épave » que n'importe quelle personne saine d'esprit fuirait à la nage pour sauver sa vie. Et ça fait un peu écho à ce que l'apôtre Paul dit dans le chapitre 12 de sa lettre à l'église de Rome. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il y a donc un exercice que nous devons faire. C'est apprendre à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Mais pour ça, il faut passer un peu de temps avec lui. Hein. Non ? Si vous voulez savoir ce que je pense, il faudra passer du temps avec moi. Alors, qu'est-ce que nous devons faire quand nous nous retirons dans la solitude ? On doit faire quoi ? Parce que ça, c'est la question. Oui, mais c'est pas la première fois que je parle de ça, parce que je savais très bien que je fais partie d'une fraternité, d'un tiers ordre monastique protestant, donc je suis un moine. Ma cellule, elle est là, en fait, monastique. Donc moi, je suis le silence, et il y a longtemps que je pratique, et je suis convaincu de ça. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce que les gens, qu'est-ce que tu veux que je foute dans les 3 jours de retraite ou une semaine ? Et je vais faire quoi ? Rien. Rien. Et c'est ça le but, hein ? Rien. C'est difficile de ne rien faire, non ? Honnêtement. Henri Nouwen. Là, c'est un prêtre catholique. Décidément, je brasse. Hein, prêtre catholique. Il est mort aussi, malheureusement. Il disait que dans la solitude, je me débarrasse de mes échafaudages. Alors j'explique, par échafaudage, il entendait toutes les choses que nous pensons importantes et qui ne le sont pas, tout ce qui nous entretient dans l'idée de notre importance. Dans le silence et la solitude, en fait, il n'y a que nous. Pas de télé, pas de livre, si vous en lisez, pas de journaux, pas de téléphone, pas d'iPhone, pas de réunion, rien pour nous occuper ou distraire notre esprit, rien. Dans la solitude et le silence, il n'y a que Dieu. Moi, mon ancienne nature qui me pousse à faire l'andouille, mon désir ou mon absence de désir pour Dieu. Parce que là, dans le silence, vous allez savoir aussi s'il y a encore du désir pour Dieu. Ça peut arriver. Dans toutes les relations, sentimentale, parce qu'il y a un peu de ça, il y a parfois du manque de désir, hein, ça arrive, hein. Dans les couples, ça arrive. Mais faut pas être naïf dans notre rapport à Dieu, ça va arriver aussi. Hein. Et c'est pas le problème de se dire, oh, j'ai moins de désir pour Dieu. Le problème, ce serait de ne pas le remarquer, ou de faire semblant, ou de quand tu veux faire les singes le dimanche matin, ça, ça serait grave. Maman, prendre conscience que mon Dieu, je n'ai plus de désir pour Dieu, j'ai l'impression de manger du caillou quand j'ai de la parole, j'en ai plus rien à... Ben, c'est pas grave le constat. Il faut le faire, mais pour le faire, il faut en être conscient. Et le silence et la solitude est un des éléments qui vont nous permettre, ou qui va nous permettre d'en prendre conscience. Comme toutes les disciplines, il faut donc décider de se retirer. Il faut le mettre dans notre agenda. Il faut le planifier. Pourquoi ? Parce que ça ne va pas arriver tout seul. Si je veux me retirer 3 jours, il va falloir que je prenne mon agenda, dire de telle date à telle date, je ne suis plus là. Je disparais. Si on ne le fait pas, alors je suis peut-être en train de vous faire peur en disant tout ça, mais je pense qu'il faut des temps de solitude au quotidien, des petits temps. Ça s'appelle vraiment notre rencontre quotidienne avec Dieu, notre office quotidien, appelez ça comme vous voulez, les temps que vous mettez à part normalement tous les jours pour être avec Dieu. Mais de temps en temps, on a besoin aussi de plus longues périodes pour être seul avec lui. Et puis au quotidien aussi, dans notre journée de travail, parce que c'est quand même là que je l'ai dit qu'on passe le plus de temps. Parfois, en pleine journée, quel que soit votre boulot, je vous assure que c'est vrai, vous pouvez prendre 5 minutes pour tirer la prise. Que ce soit au bureau, dans un bus, dans un tram. Enfin, à Brenne, les trams, c'est plus rare quand même. Prendre 5 minutes pour vous rappeler ce qui est vraiment important. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. Parce que lui, il va nous rappeler, par sa présence, sa simple présence, de ce qui est véritablement important. Et où que vous soyez, vous pouvez très bien, dans votre bureau, en train de faire un truc, vous rendre compte pendant ces 5 minutes que le bâtiment où vous êtes, le bus dans lequel vous êtes, je ne sais pas moi, l'avion, le pilote d'avion dans lequel vous êtes, tout ça dans 20, 30, 40 ans, tout ça n'existera plus. Dans 100 ans, ça c'est sûr. Dans 200 ans, ça c'est certain. Mais l'amour que Dieu vous porte, il sera toujours là. Inchangé, intact. Pensez pas que c'est ça qui est important, de se savoir aimer de Dieu. C'est pas pour ça qu'il faut faire des trucs. Hein. Mais il faut vraiment apprendre à sélectionner ce que nous faisons. Les activités où nous investissons du temps. Le plus important, c'est les gens. Mais pour pouvoir vraiment être proche des gens, il faut être proche de lui, mes amis. Il n'y a que lui qui est capable de donner de l'amour en continu, hein, sans arrêt. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Le seul moyen de continuer à être surexposé aux souffrances du monde, parce que c'est pour ça que nous sommes là aussi, c'est d'être proche du cœur de Dieu et que lui alimente notre amour. Parce que son amour à lui, il est infini. Le mien, il manque peut-être 2-3% encore. Donc, le deal est très simple. Nous devons aller à contre-courant et apprendre à faire l'éloge de la lenteur. Est-ce que vous allez être en contre-courant si vous commencez à développer ça? Vous allez être à contre-courant. Parce que tout le monde court dans tous les sens, comme des poules sans tête. Mais c'est le seul chemin, mes amis, vraiment. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.